Un livre sur la détermination, la passion, la stratégie, à travers une dernière saison de jeu pour la reine du tennis Carrie Soto, pensée par la talentueuse Taylor Jenkins Reid. Bienvenue à la page 222. Bon week-end, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine si vous écoutez ça le jour de la sortie de l'épisode. À la page d'aujourd'hui, on part pour une deuxième revue littéraire. Comme je vous l'avais dit la première fois, enfin dans le premier épisode de page 222, que je comptais faire des revues littéraires, c'est-à-dire des épisodes où je ne parle que d'un seul livre, quand vraiment c'est un livre qui m'a énormément marqué et que j'ai envie de détailler dessus, d'exprimer mon avis dessus et que je le considère comme un must-read pour tous et que c'est un 5 étoiles. Et c'est la deuxième fois que ça m'arrive depuis le début de ce podcast. Samedi dernier, je vous ai dit que j'étais dans une reading slump et que pour essayer de m'en sortir, je lisais Carrie Soto is Back de Taylor Jenkins Reid. Et bien ce fut un winner, un banger comme on dit des fois, parce que ce livre a réussi à me faire sortir de ma crise de lecture. Et c'est aussi pour ça que j'avais absolument envie d'en parler, parce que ça fait très longtemps, enfin très longtemps, j'abuse, mais ça fait quelques temps que j'ai pas autant apprécié un livre. Comme pour le premier épisode de revue, on va diviser tout ça en deux parties. La première partie, ce sera une partie vraiment sans spoiler pour vous donner envie de lire le livre si vous ne l'avez pas lu, vous aider à apprendre à le connaître. Et la deuxième partie, où j'indiquerai le temps bien évidemment dans la description, sera un peu plus avec des spoilers parce que je vais parler du développement des personnages, des intrigues, de mes passages favoris, etc. Donc c'est plus pour les personnes qui ont déjà lu le livre ou alors vous pouvez y revenir une fois que vous l'avez lu. Commençons par la première partie. Je vais démarrer par une petite introduction sur l'auteur et la catégorie du livre. Donc déjà, Taylor Jenkins Reid, j'espère que je dis correctement, c'est une auteure très connue, dans le sens où elle a fait beaucoup parler d'elle et de ses livres. Vous n'avez peut-être pas son nom en tête, mais je pense que vous avez forcément entendu parler d'au moins un des livres qu'elle a écrit, parce que c'est des livres qui sont soit adaptés en film, en série, ou alors qui ont vraiment explosé sur TikTok. Par exemple, il y a The Seven Husbands of Evelyn Hugo, Malibu Rising, Daisy Jones and the Six, qui est justement en train d'être adapté comme série, je crois. En tout cas, c'est une écrivaine très talentueuse et elle a été nommée number one New York best-selling author de 8 romans. Donc c'est quand même énorme. Mais sincèrement, elle arrive tellement à nous captiver que ça ne m'étonne même pas. En ce qui concerne la catégorie du livre, on est sur une fiction historique qui se passe entre les années 70 et mi-fin 90. Et on peut parler d'historique parce qu'on a quand même des références vraiment historiques tout le long de l'histoire, mais c'est quand même une fiction parce que c'est un personnage qui est créé, Carrie Soto. Et même si on est dans des lieux qui sont historiquement encore là et qui ont existé, bah, et qui existent toujours pour certains, c'est quand même une fiction. Autre chose que je tiens à préciser, c'est que c'est pas un livre jeune adulte, c'est un livre adulte, une fiction adulte, parce que le personnage principal a 37 ans, on n'est pas dans la tête en fait, d'une ado de 17 ans ou d'une jeune adulte de 22. C'est pas le même style d'écriture et le même style de pensée et le même tournant des histoires. Pourtant, c'est pas plus illisible que ça pour des jeunes adultes. Enfin, j'en suis la preuve, j'ai 22 ans et j'ai lu quelque chose qui est considéré une fiction pour adultes. Enfin, pas pour adultes, mais une fiction qui concerne des adultes. Et je trouve que c'est pas vraiment quelque chose qui peut nous repousser, le rendre la tâche un peu plus difficile si on est des jeunes adultes. Pas du tout. Mais j'ai vraiment adoré, donc vous en faites pas si vous êtes des jeunes adultes, c'est pas grave. Et dernièrement, c'est vrai que j'ai fait des petites recherches sur Goodreads et je suis tombée sur le fait qu'en fait c'est un livre qui est considéré dans la catégorie sport, ce que je suis complètement d'accord parce qu'on parle de sport tout le long, mais j'étais pas au courant qu'il y avait vraiment une catégorie dédiée pour le sport, donc ça fait carrément partie de ça. Continuons avec le thème principal et je me suis dit que c'était intéressant quand même de vous lire la quatrième de couverture pour que vous puissiez comprendre, sans spoiler, ce dont parle le livre et que ça vous donne peut-être un peu envie, j'espère. Lorsque Carrie se retire du tennis, elle est la meilleure joueuse que le monde n'ait jamais connue. Elle a pulvérisé tous les records et remporté 20 titres du Chelem. Et, si vous lui demandez, elle a droit à chacun d'entre eux. Elle a presque tout sacrifié pour devenir la meilleure, avec son père comme entraîneur. Mais, 6 ans après sa retraite, Carrie se retrouve assise dans la tribune de l'US Open en 1994. Regardant son record lui être enlevé par une joueuse britannique brutale et stupéfiante nommée Nicky Chan. À 37 ans, Carrie prend la décision monumentale de sortir de sa retraite et d'être entraînée par son père pour une dernière année afin de tenter de récupérer son record. même si les médias sportifs disent qu'ils n'ont jamais aimé, entre guillemets, la hache de guerre, je précise que c'est son surnom, de toute façon. Même si son corps ne bouge plus aussi vite qu'avant, et même si elle doit ravaler sa fierté pour s'entraîner avec un homme à qui elle a failli ouvrir son corps, Bowie Huntley. Comme elle, il a quelque chose à prouver avant d'abandonner définitivement le sport. Malgré tout, Carrie Soto est de retour. Carrie Soto est de retour pour une dernière saison épique. Dans ce roman captivant, inoubliable, Taylor Jenkins Reid raconte l'histoire du coup de la grandeur et d'une athlète légendaire qui tente de revenir sur le devant de la scène. Alors si ça, ça vous donne pas envie de le lire, je sais pas qu'est-ce qui va vous donner envie. Enfin si, je vais essayer de vous donner envie si là vous avez pas envie. Mais quand même, on est d'accord que la quatrième de couverture est pas mal. Continuons notre bon chemin avec la partie mes recommandations sur qui devrait lire ce livre. Déjà, il faut savoir que si je vous fais une revue entière sur ce livre, c'est que je pense que tout le monde bénéficierait d'une lecture de ce roman. Mais bien évidemment, c'est pas aussi simple que ça et il y a des préférences de chacun. Et je pense que c'est bien aussi de faire des petites recommandations pour préciser un peu le profil des personnes qui, je pense, pourraient apprécier ce livre. Même si je pense que tout le monde devrait lire ce livre. Premièrement, les personnes qui ne connaissent pas le tennis ou ne se sont jamais intéressées au tennis ou qui, encore pire comme moi, avaient des préjugés et des a priori sur le tennis. J'avoue que le tennis, ça n'a jamais été mon truc. Bien évidemment, j'ai été influencée l'année dernière quand c'était Roland-Garros. Je me suis lancée au tennis, j'ai fait genre 2-3 matchs, 2-3 entraînements, j'étais éclatée au sol. Mais faut le dire, je ne me suis jamais vraiment entraînée professionnellement, jamais pris de cours de tennis et je ne connaissais pas du tout les règles, pas du tout l'esprit du jeu. Pas du tout les joueurs à part Wilfried Tsonga et Serena Williams. Enfin, je ne connaissais pas les compétitions, vraiment rien du tout. Et j'avais, comme je vous ai dit, des énormes a priori complètement débiles que beaucoup de personnes ont, qui est « Ah mais c'est un sport de bobo, riche, c'est pas pour moi ». Alors qu'en fait, c'est complètement infondé. Enfin, oui, il y a peut-être une certaine catégorie de personnes qui font du tennis, mais c'est hyper réducteur et enfin, c'est franchement débile. Et j'étais carrément prise dedans. Enfin, je pensais vraiment que... En fait, je pense que j'avais la haine de ne pas réussir à le faire, et j'avais la haine d'être nulle et que du coup, je disais ça pour me soutenir. Mais bon, bref. Comme vous pouvez le comprendre, j'avais pas forcément le meilleur background pour commencer le livre et pour avoir un intérêt pour un livre qui parle autour de tennis, enfin qui parle de tennis quoi. Enfin, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je vais lire ça alors que je connais pas le tennis, je m'y intéresse pas, j'ai aucun vocabulaire de tennis. Enfin, je veux dire, je vais m'ennuyer. En fait, c'est pas possible. Et au final, pas du tout. C'est un truc de fou comment ce livre. Ça m'a fait aimer et surtout comprendre le tennis. Taylor Jenkins Reid, elle a vraiment tout bien expliqué. On n'est pas perdu. On finit par comprendre vraiment tous les petits termes par-ci par-là, le nom de tout, que ce soit des joueurs, des compétitions. Enfin, il n'y a vraiment pas une seconde où t'es perdu parce que je pense qu'elle a compris dès le début qu'il y aurait beaucoup de personnes, enfin la plupart des personnes qui vont lire ce livre qui ne connaissent pas le tennis ou qui ne sont pas forcément énormément intéressées. Elle a été très forte là-dedans, c'est que elle n'a pas mis à l'écart une grande partie de la population qui n'a aucune connaissance en tennis. Deuxièmement, bien évidemment, je recommande ce livre pour tous ceux qui aiment le sport en général ou point bonus si vous aimez le tennis ou que vous faites du tennis. Parce que de la première à la dernière page, ça tourne autour du monde du tennis et du monde du sport. Que ce soit des entraînements, des matchs, des défaites, des victoires, des adversaires, les médias sportifs. Je pense que c'est vraiment un trait particulier qui est quand même important à mettre en avant parce que ça tourne vraiment beaucoup beaucoup, enfin c'est pas que autour de ça, et je sais que ça peut faire peur dit comme ça, il y en a plein qui vont se dire oula mes meufs, hein, je me sens pas de lire un livre que sur des matchs de tennis, mais je vous jure que c'est tellement plus que ça et c'est hyper captivant et c'est un délire comment vraiment ça vous donne envie de tout lire et de regarder tout genre, et maintenant j'ai envie de regarder tous les matchs de Serena Williams alors que jamais je me suis intéressée avant, enfin je la connaissais de nom quoi. C'est pour ça que je me dis que ceux qui ont un attrait pour le sport, que ce soit du sport d'équipe, du sport individuel, enfin tout ce qui est esprit sportif, c'est obligé que vous allez adorer. Il n'y a aucune raison que ce ne soit pas le cas. Et je me dis que ce soit du tennis ou pas du tennis que vous aimiez, c'est l'esprit quand même sportif qui est hyper ancré dans ce livre. Et je pense que c'est quelque chose de fou de pouvoir retrouver ça dans un bouquin, quoi. Et bien évidemment, si vous êtes fan de tennis ou que vous faites du tennis ou que vous apprenez le tennis ou que vous regardez du tennis, peu importe, c'est exactement le livre qu'il vous faut parce que bah, ça parle de tennis, de matchs de tennis, d'entraînement de tennis. Et ça vous permet d'être dans la tête d'une femme qui fait du tennis en professionnel, de comprendre les stratégies, de comprendre comment ça fonctionne, les entraînements, etc. Et je pense que ça peut, mais encore plus, vous faire adorer ce monde-là. Et voilà, je pense qu'il n'y a rien de mieux pour vous. C'est une vraie aventure. Troisièmement, je recommande ce livre à ceux qui ont besoin d'un remontant. Que ce soit un remontant dans la lecture, parce que, je sais pas, vous êtes... un peu en crise de lecture comme moi j'étais, ou qui ont besoin un peu d'un remontant dans la vie pour se motiver à faire des trucs, pour se montrer qu'il n'est jamais trop tard pour faire des choses. Parce que sincèrement, pour moi, ce livre, c'est une boisson énergisante. Enfin, il m'a fait sortir de ma crise de lecture parce qu'il était hyper dynamique, hyper rapide à lire. Enfin, c'était un page-turner du début à la fin. C'était captivant et rempli de suspense. Et ce côté immersif et différent était incroyable parce que j'ai jamais entendu parler de livres autour du tennis. Après, c'est peut-être parce que moi, je ne suis pas une fan de tennis et que je regarde, enfin, je lis pas forcément des livres sur le sport. Mais ça rend vraiment facilement addict à tout cet univers-là parce que comme ça tourne que autour de ça, enfin, tu deviens vraiment captivé par ce qui se passe. Et en ce qui concerne le côté remontant pour le moral, bah, tu suis quelqu'un à qui tout le monde dit que c'est trop tard pour faire quelque chose, qu'elle est trop vieille pour faire quelque chose, qu'il faut qu'elle laisse le temps passer et que c'est bon, son moment est passé, que son pic de carrière est passé. Et ça montre que bah, il est jamais trop tard et qu'on peut se mettre en tête de faire tout ce qu'on a envie de faire. Vous voyez ce que je veux dire ? Enfin, je trouve qu'il est vraiment très très beau ce livre. Continuons avec le style d'écriture de l'auteur. Déjà, il faut savoir que c'est un livre qui est écrit à la première personne. On est donc dans la tête de Carrie. Ça décrit ce qu'elle voit, ce qu'elle fait, ce qu'elle pense. Et c'est très intéressant parce qu'on est dans la tête d'un personnage un peu à tonalité anti-héroïque parfois. Parce que bien sûr, c'est une grande gagnante dans plein de domaines, très inspirante, très forte, etc. Elle reste quand même dans plein de parties de sa personnalité le contraire de ce qu'on attendrait d'une héroïne dans le sens entre guillemets commun du terme. Elle n'est pas forcément ouverte, elle n'est pas sentimentale, elle n'est pas gentille, elle est très franche, très honnête, assez froide et pourtant ça donne pas envie de la détester. Au contraire, le fait d'être dans sa tête, bah on comprend le pourquoi du comment, elle est comme ça, ce qu'elle pense et comment elle perçoit les choses. Et ainsi c'est difficile pour nous de pas apprécier son personnage et de pas s'attacher à son personnage parce qu'on voit où est-ce qu'elle met son amour, on voit où est-ce qu'elle met sa gentillesse et où elle le met pas. Et c'est ça qui est bien quand on est dans la tête de quelqu'un dans ses chaussures, c'est qu'on n'a pas un point de vue extérieur et médiatique ou de l'entourage mais de la personne en question, et c'est ça qui est super intéressant dans ce livre. En ce qui concerne le style d'écriture, comme je l'ai un peu dit avant, c'est très très fluide. On peut parler un peu de style descriptif, mais jamais border. Enfin, c'est jamais trop, jamais ennuyant. Elle cut le bullshit assez rapidement, elle va au point. Elle sait ce qui nous intéresse, ce qui ne nous intéresse pas. Et c'est très motivant, c'est très dans l'action, c'est très centré autour de tout ça, parce que dès le début, on sait que Carrie, c'est une femme de l'action. Elle n'est pas très émotive, elle n'a pas beaucoup de sentiments, dans le sens où elle préfère les actes que réfléchir, en fait. Et du coup, on a beaucoup de descriptions des faits plutôt que de ses sentiments à elle. Et c'est vrai que ça aide à vraiment comprendre bah, ce qui se passe autour de nous et d'attribuer les situations qu'elle nous décrit à nos propres sentiments. Et c'est pour ça que ça nous lie vraiment rapidement avec le livre. Et ce qui est fou, c'est qu'à tout moment, ça pourrait être ennuyant. Ça pourrait très rapidement tourner à l'ennui, mais pas du tout. Parce qu'elle sait trouver les moments où ça peut être ennuyant et les faire partir. Et c'est pas présent, ils seront pas dans le livre. Les moments qui peuvent être répétitifs, par exemple, si elle décrivait tous les matchs, tous les détails de tous les matchs qui se passent, alors qu'il doit y en avoir genre 50, enfin, au bout d'un moment, on sera en mode « bon, meuf, t'es mignonne, mais franchement, ça commence à me saouler ». Et c'est pas le cas. Et elle sait quand est-ce qu'il faut décrire un match, elle sait quel moment il faut bien décrire. Et c'est ça qui est bien, c'est que, enfin, il y a plein de livres que j'ai lus récemment qui, justement, m'ont fait tomber dans ma crise de lecture, où il y avait des descriptions qui étaient pas utiles, qui rapportaient rien à l'histoire. Et bien sûr qu'il y a des livres où c'est bien d'avoir ce genre d'écriture-là, parce qu'il faut de l'écriture de tous les styles, et qu'il y a des livres où ça apporte à l'histoire, même si on a l'impression que ça n'apporte pas à l'histoire. Mais là, pour le coup, c'est tellement un livre de l'action qu'il n'y a pas de moment pour le détail, il n'y a pas de moment pour les choses futiles. Et comme c'est un peu le caractère de Carrie, c'est vrai que bah, ça se montre de cette façon à travers l'écriture de l'auteur, et je trouve que c'est une recette parfaite, et une balance parfaite entre description intéressante et pas intéressante, parce qu'elle sait exactement où mettre l'importance, et c'est ça que j'ai adoré dans ce livre. Ensuite, passons à la structure du livre. Je pense que ce qui apporte le plus dans ce livre, c'est justement la structure. Parce que c'est quelque chose qui rend le livre hyper dynamique, parce que les parties qu'elle met en place ont énormément de sens. Premièrement, on a un chapitre tout seul qui nous explique un peu la quatrième de couverture, le moment où ça se passe, le match où elle se rend compte qu'elle est en train de perdre son record du monde. Ensuite, à la première partie qui explique comment Carrie Soto est arrivée à sa retraite. Tout son passage d'enfant à l'apprentissage du tennis, à ses matchs en junior, à son record du monde, enfin tout ça. Y a toute cette première partie-là où tu comprends qui est Carrie Soto et comment elle en est arrivée là. Puis on a les quatre parties complètes où il y a les quatre championnats du monde qui sont du coup le championnat de l'Australian Open, Roland Garros, donc le French Open, Wimbledon qui est l'ouverture enfin, anglaise, le UK Open, et enfin le US Open. Et dernièrement, on a, comme au tout début, un petit chapitre qui clôture un peu tout ça. Et je trouve que du coup, cette structure apporte énormément à l'histoire parce que le fait d'avoir choisi ces divisions-là, ça montre une énorme évolution entre toutes les compétitions, que ce soit du personnage de Carrie, mais aussi de sa façon de jouer. Et c'est très satisfaisant et intéressant à lire parce que ces passages d'une compétition à l'autre, ça nous permet d'avoir des piliers, des sortes d'objectifs aussi, parce qu'on peut comparer la Carrie qu'on lit maintenant à la Carrie de la compétition d'avant, à celle de ce qu'on s'imagine pour la compétition d'après. Et le fait qu'on sache que chaque partie est suivie par une autre partie d'une autre compétition, ça nous donne envie d'y retourner, ça nous donne envie de garder en tête le fait que c'est pas fini, qu'il y a encore derrière. Et c'est un peu un squelette de la lecture qui rend tout ça très divertissant, tout en toujours rapportant quelque chose à l'intrigue et au personnage en lui-même, parce que ça nous permet de suivre l'évolution de Carrie. En ce qui concerne l'intrigue, bon, je vais pas sortir quelque chose dont vous vous attendez pas, mais je trouve qu'elle est très bien trouvée. On veut savoir si elle va y arriver, si Carrie Soto va récupérer son titre et battre Nicky Chan. C'est une intrigue qui, aussi, il faut le dire, est une intrigue de surface. Parce que au début, c'est tout ce dont on parle. Et c'est ce qui nous anime au début, parce qu'on veut savoir qu'est-ce qui va se passer, comment elle va y arriver. Puis, au final, au cours de la lecture, je pense vers la moitié du roman, on se rend compte qu'en fait, il y a une deuxième intrigue. Il y a une intrigue qu'on n'avait pas vu venir, une intrigue qui est tout aussi importante, si pas plus importante. Et on a plus envie de savoir pour la deuxième que pour la première au final. Et c'est ça qui est fou, c'est qu'elle arrive à nous faire croire que c'est ça l'intrigue, alors qu'en fait, il y a tellement d'autres choses et qu'il y a une autre intrigue et que c'est aussi à nous de choisir ce qu'on préfère. Et c'est à Carrie de choisir ce qu'elle préfère. Enfin, vous verrez. C'est vraiment fou parce que au final, c'est pas que la gagne. Et c'est pas juste ça qui nous anime, c'est plein d'autres choses et c'est ça qui est très très accrocheur dans son roman. Aussi, je voulais dire que bien évidemment, en ce qui concerne le personnage, Taylor Jenkins Reid, elle a l'habitude de faire des personnages principaux féminins qui sont très forts, très indépendants, qui ont une vraie personnalité, qu'on retrouve notamment dans le personnage de Evelyn Hugo. Et c'est vrai que c'est un choix assez courageux qu'elle a fait parce que ça aurait pu tourner au vinaigre et on aurait pu ne pas s'attacher à Carrie parce qu'elle n'est pas forcément toujours appréciable, mais c'est très bien tourné. C'est tellement bien tourné qu'elle a même pas peur de la mettre en parallèle et de mettre en avant des personnages qui sont plus doux, peut-être plus communément attachants et plus gentils, parce qu'elle sait qu'au final on aimera toujours Carrie, et ça met en avant aussi le côté du personnage de Carrie qui la rend aussi humaine. Et voilà, c'est tout pour la partie sans spoiler. J'espère sincèrement que pour tous ceux qui n'ont pas lu le livre, cela vous aura donné envie de vous le procurer, ou ça vous intéressera peut-être à lire d'autres romans de Taylor Jenkins Reid. N'hésitez pas à me dire sur Instagram si vous vous procurez le livre et puis potentiellement votre avis si vous finissez par le lire. Mais voilà, j'espère que cette revue vous aura aidé d'une façon ou d'une autre. Et bien évidemment, n'oubliez pas que si vous le lisez, ce serait avec grand plaisir que je vous glisserai dans le prochain épisode du podcast. Et maintenant, let's go avec les personnes qui ont déjà lu Carrie Soto is Back pour qu'on parle un peu de real shit. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on va y aller. Premièrement, l'évolution du personnage de Carrie. On va parler de la bonne vieille Soto. Punaise, mais au début, comment elle me faisait presque peur. Enfin, pas peur, mais dans le sens où c'était un personnage que j'avais absolument pas l'habitude de lire et je pense qu'elle m'intriguait plus qu'elle me faisait peur. Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que la différence de personnalité et de vision de Carrie entre le début, la fin, etc., c'est absolument fou. Genre, bien évidemment, on a d'abord la Carrie jeune, celle qui apprend, celle qui va arriver à son titre, qui pourrait paraître parfois mal polie, imbue de sa personne, déloyale, etc., étant donné qu'elle a vraiment tège son père pour aller jouer avec quelqu'un d'autre. Ça, je ne me remettais pas, j'étais choquée, frère. Et, enfin, au début, elle a été au top, elle est arrivée là où elle voulait, mais c'est vrai que c'était pas forcément d'une façon qui était ouf, enfin, ce qu'on attendrait d'une héroïne. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Elle était vraiment très imbue de sa personne. Mais après, est-ce qu'on peut lui retirer ça parce qu'elle était vraiment très forte? Et au final, elle a gagné. Mais voilà, c'était pas forcément hyper, hyper sain, le délire. Puis, on a la deuxième Carrie Soto, qui est la Carrie Soto qui va sortir de sa retraite, qui est vers la fin de sa retraite, là, qui se remet au tennis pour prouver aux autres ce qu'elle est. Et sa niaque est absolument impressionnante, et sa dalle, faut le dire, elle est vraiment impressionnante. Mais même si elle reste vraiment confiante, etc., elle a quand même plus de loyauté qu'avant parce qu'elle décide quand même de s'entraîner avec son père, et je trouve que ça, déjà, c'est une bonne avancée. Et bien évidemment, ma préférée, la dernière Carrie, la Carrie après Wimbledon, enfin après, pas après Wimbledon, pas du tout, après que son père soit tombé malade. Parce que avant que son père soit malade, elle était la deuxième Carrie, là, la Carrie retraitée qui avait la niaque et qui voulait juste prouver aux autres plutôt que à elle-même. Enfin, c'était bizarre. Plutôt que de savoir qu'elle était bonne, il fallait qu'elle le prouve. C'était ça, cette Carrie-là. Et la Carrie où son père est tombé malade, c'est là où vraiment il y a eu un changement. Parce qu'elle est passée de « je veux gagner » avec de l'attitude, avec confiance, avec stratégie, orgueil, que victoire, à une Carrie qui se tourne plus vers l'amour du jeu, la passion du jeu et le plaisir. Et c'est cette Carrie qui finit par s'ouvrir et vivre vraiment et se détacher de tout ce qu'elle avait en tête. Et je trouve ça tout simplement hyper beau de pouvoir être témoin d'une telle évolution, que ce soit dans son rapport avec son père, avec Bowie, avec les matchs, l'entraînement et même les spectateurs, parce que je vous rappelle qu'au début, elle disait même pas bonjour, elle s'en battait les steaks, elle cala personne, et après, à la fin, elle commence à sourire, à faire des petites waves aux gens. Donc franchement, je trouve qu'elle a vraiment de ouf évolué, et le fait qu'elle ait cette résilience à la fin de se dire « mais je veux que ce soit suffisant, je veux que ce soit assez, let it be enough », quand elle a dit ça, mais j'étais en mode « oh punaise, mais Carrie, mais oui, épouse-moi !» Genre la fin, le dernier tournant, quand elle lance la balle à Nikki, là, et qu'elle est en mode « c'est bon, j'ai gagné, je sens la victoire », et qu'elle est en mode « mais en fait, je veux juste que ce soit assez, ça », et là, boum, elle est hors jeu. Wow, mais comment j'ai explosé mon crâne. Enfin bref, l'évolution de Carrie est vraiment magique, et je trouve que même si les personnages autour ont tous évolué au cours des années, elle, c'est quand même fou, parce que outre le fait qu'elle ait évolué dans le tennis, elle a aussi évolué dans sa perception à elle-même, la perception de la victoire, de la défaite, de la loyauté envers sa famille, de l'amour quand elle s'ouvre notamment à Bowie, mais aussi à Nikki et aussi à Gwen. Enfin, il y a plein de différentes façons de voir ça et de voir son évolution, et je trouve que c'est trop beau à suivre. Continuons avec mes pensées sur le livre. Honnêtement, j'aurais pas misé sur Carrie Soto is Back pour ressentir un impact émotionnel aussi profond. Je pensais que ça allait être un livre plutôt aventure sportive qui allait me faire ressentir de l'excitation plus qu'autre chose. Mais au final, je trouve que l'impact émotionnel était vraiment présent. J'ai ri, j'ai stressé, j'ai été frustrée, j'ai été soulagée, j'ai été choquée. J'ai eu énormément de frissons. Et j'ai même lâché ma petite larme au moment où on a perdu Rav, enfin le jaguar et tout. Enfin, bon, j'étais trop triste. Mais je pense que Tyler, vas-y, je vais me permettre de l'appeler par son prénom, même si elle ne m'a pas autorisée, a dû regarder vraiment des heures et des heures de tennis et de matchs de tennis pour réussir à retranscrire aussi bien les matchs et les sensations et tout autour de ça pour qu'on ait des frissons à la fin de chaque match. Enfin, je suis désolée, mais moi, j'avais vraiment des frissons de tout le bras et dans l'arrière de mon cou quand elle gagnait, qu'elle perdait. Enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais c'était un délire comment je ressentais énormément tout ce qui se passait. Et premier degré, enfin, franchement, j'avais l'impression que c'était moi qui jouais les matchs, ou ma sœur, ou ma fille, enfin, je sais pas, mais c'était impressionnant. Et j'ai adoré l'impact, vraiment, que ça a eu sur mes émotions. Continuons avec ce que ça m'a appris. Premièrement, écouter les autres. C'est vrai qu'au début, Carrie, elle est un peu fermée, après elle est plus fermée. Enfin, au début, non, parce qu'elle écoute quand même énormément son père, et c'est lui qui la guide. Mais il y a plein de moments où elle est un peu fermée, où elle est vraiment stubborn, comme on dit, têtue, hyper têtue, et je trouve que ça m'a vraiment appris à voir l'importance que le point de vue des autres a, et à quel point, justement, quand elle arrête vraiment Carrie de se dire « mais non, mais il a tort, c'est moi qui ai raison », et qu'elle écoute son père ou qu'elle écoute Bowie, c'est là qu'elle avance énormément et qu'elle fait des pas majeurs dans sa carrière. Mais, deuxième truc que j'ai appris, qui est un peu en parallèle slash contradiction avec ce que je viens de dire, c'est que c'est aussi hyper important de suivre son instinct. Parce que il ne faut pas avoir peur, comme dit Bowie, de dire à la partie une de nous qui nous insulte et qu'elle est en train de nous dire qu'on est en train de faire la plus grosse merde sur Terre, de se taire, pour que la deuxième partie de nous, qui sait faire les choses, qui va nous faire gagner, qui est plutôt notre instinct du coup, ait la place et l'attention qu'elle mérite pour faire son travail. Et c'est vrai qu'on le voit justement à Wimbledon, on le voit au US Open, que c'est son instinct qui la guide et c'est ça qui la ramène en finale, à la victoire, etc. Enfin, c'est trop beau et je trouve que ça m'a vraiment donné envie de plus croire en moi parfois. Quatrièmement, avoir un œil plus critique sur les médias. Parce que franchement, il faut le dire, dans le livre, mais les médias, ils sont horribles. Genre, ils parlent trop mal de Carrie, ils parlent trop mal de... Bon, ça va encore de son père, ça va. Mais quand ils parlent de Carrie, ils parlent trop mal d'elle. Ils parlent super méchamment de sa personnalité, de sa personne, parce qu'ils ont un regard extérieur et surtout parce que je pense qu'ils sont un peu sexistes. Mais enfin, ça m'a donné envie d'avoir un regard particulier et plus critique sur les médias. Parce qu'il y a beaucoup de médias qui peuvent utiliser la facilité et parler de ce qui les arrange en disant que quelqu'un est mauvais, alors qu'en fait, bah, ils sont personne pour le savoir. Ils ne connaissent pas forcément la personne et ils sont forcément biaisés, je pense, s'ils sont aussi attachés à cette version-là qu'ils ont de Carrie. Donc c'est vrai que ça m'a vraiment donné envie d'avoir un œil plus critique sur les médias et surtout sur les médias sportifs. Et dernièrement, je le dis tout bas parce que je l'assume pas encore, mais si en fait je l'assume, le tennis, c'est incroyable. J'ai trop envie de faire du tennis, c'est trop bien. Finissons avec mes passages favoris. Premièrement, Wimbledon, les UK Open, compétition favorite. Carrie, absolument fofolle, incroyable. J'ai trouvé cette partie animée, passionnée, belle. Enfin, genre, je sais pas comment expliquer, mais on sent qu'il y a quelque chose qui a changé dans Carrie et ça fait trop du bien de le sentir et de le voir en action et de voir qu'elle prend autant de plaisir. Et c'est fou, en fait, comment ça peut nous faire voir un autre point de vue et nous soulager de voir qu'elle a enfin libéré un truc dans sa tête. Ensuite, en ce qui concerne les entraînements, j'ai adoré son entraînement pour Roland-Garros parce que c'était du clay, mais genre sand clay. Donc il fallait qu'elle court sur du sable et tout. Enfin genre, j'ai trop aimé cet entraînement-là. Et je trouve que les entraînements où elle est avec son père, où ils discutent, où il y a des échanges, j'ai adoré. Surtout qu'il parle espagnol. Et comme je parle espagnol, j'étais contente de comprendre. Mais voilà, c'est trop trop bien. Et ça nous amène à un autre truc que j'ai adoré, c'est le personnage de Javier, du papa de Carrie, que j'ai porté dans mon cœur chaque seconde de ce livre et que j'ai vraiment chialé quand il est décédé. Voilà, je me permets de le dire parce que c'est la partie avec spoiler. Vous savez que c'est les spoilers ici. Mais voilà, j'étais trop triste, mais j'adore ce personnage. Il était tellement beau, tellement loyal, tellement aimant, tellement stratégique, intelligent, enfin vraiment trop fort. J'ai adoré et je veux vous dire qu'il a une place tellement forte dans mon cœur. Et mes passages favoris, c'est quand... Notamment, il s'entraîne avec Bowie et elle, et qu'il essaie de les coacher tous les deux, ou qu'il essaie... enfin, les premiers échanges qu'il a avec Bowie, où c'est un peu en mode je sais pas, est-ce que je l'insulte ou pas, enfin, ça c'était trop stylé. Et j'ai aussi adoré les moments où Carrie et son père sont au téléphone après que Carrie soit championne du monde, le moment où ils se retrouvent, j'ai trouvé ça tellement beau, genre j'ai adoré, ça m'a mis plein de frissons, leur appel au téléphone, et même quand il était à l'hôpital et qu'elle était à Wimbledon, enfin tous les truc au téléphone, c'était fou. Donc voilà, une place très très forte dans mon cœur, monsieur Javier. Cela conclut la deuxième revue de lecture, enfin revue littéraire du podcast page 222. N'hésitez pas à me dire votre avis dans la Q&A si vous avez lu ce livre, ce que vous en avez pensé, si vous êtes d'accord ou non avec moi, bien sûr. Et j'ai adoré cet épisode et j'espère qu'il vous a plu autant que moi, enfin que moi à le faire, pardon. Qui vous a permis de voir certaines choses que vous n'avez peut-être pas vues ou ouvrir les yeux sur des choses que je n'ai pas vues. Remarquez que je n'ai pas remarqué quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire ? N'hésitez pas à me le dire par message, ça me fait toujours plaisir de voir que j'ai zappé un truc ou que je n'ai pas parlé d'un truc qui est hyper important. Peut-être que cet épisode vous a donné envie de relire Carrie Soto is Back de Tyler Jenkins Reid. En tout cas, je vous remercie du fond du cœur pour votre soutien et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous !